nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, La troisième époque de violence et crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti. Que celui qui l'a déjà soit plus fort. Le travail consiste à travailler pour lui, c'est-à-dire pour nous. Pour que ce soit plus clair, en gros, il a été mis un trésor inestimable dans la société. Et pour le bien de ce trésor, il faut que la société prenne de la puissance. Et comme elle ne peut pas y arriver, elle-même, on y a introduit des spécialistes, et le rôle de Judith est de lui implanter. Elle est formée pour ce travail très dur et particulier. Tous les coups lui sont permis. Mais si elle se trouve en difficulté, personne ne viendra l'aider. Elle sera peut-être même éliminée par ceux qui la commandent. Et le train file. Voilà à quoi Judith pense. À mesure que le train s'approche de Moutier, le ciel devient gris. Il y a des plaques de neige sur l'herbe. Enfin, le train arrive en gare de Moutier.
Correspondance. par autocar pour la direction de Pontivy. Départ 18h55, correspondance par autocar.
Elle sort son parcours, prend sa valise et sort du wagon. Un vent glacé la surprend et suit les voyageurs avec leurs bagages et leurs skis qui se dirigent vers la sortie. Ils prennent un passage souterrain qui les mène dans le hall de la gare. Le hall est moderne, pas très grand, parce que la gare n'a que deux voies. En sortant de la gare, il se trouve sur une petite place qui est le devant de la gare. Il y a garé des cars et des taxis. Elle hésite un peu, laisse passer les gens, réfléchit et va vers les taxis, mais se met à la file. Lorsque son tour est venu, elle s'engouffre dans un taxi. Où allons-nous ? Courchevel, 1850, hôtel Les Névés. Et le chauffeur met en route son taxi. Ils sortent de Moutier et monte sur la route de droite, direction Brive-les-Bains. Après Brive-les-Bains, la route grimpe de plus en plus et il y a de plus en plus de virages. Il ne neige pas, mais le paysage est enneigé, dans les champs, sur les arbres, sauf sur la route. Le toit des maisons a aussi une épaisse couche de neige. Il y a peu de circulation, la route est sèche. Le trajet dure à peu près une demi-heure. Après Brive-les-Bains, il y a plus loin Le Prat. Et là, on commence à voir les pistes de ski. On voit des taches multicolores descendre la montagne. Plus loin, il y a Courchevel, 1150. Puis Courchevel, 750. Et Courchevel, 1850. Le taxi l'amène jusqu'à son hôtel qui est vers la piste aéroport. C'est un hôtel 4 étoiles au bord des pistes. L'architecture moderne, grande classe. Dans l'entrée principale est sur la route et l'autre sur les pistes. Donne sa carte au chauffeur pour payer et sort du taxi. Un groom vient vers eux pour prendre les bagages. Il est habillé d'une veste bleue avec des galons dorés et un pantalon noir. Il demande « Vous avez des bagages ?» Elle lui dit « Oui ». Le chauffeur les lui donne et ils entrent dans l'hôtel. «
grand hall d'entrée, avec sur les murs et à terre de la pierre plate, grise, brute et vernie. Il y a, dans un coin, un hall avec des fauteuils en tissu laine grise et des meubles en bois, des plantes vertes. Un grand escalier en pierre comme le sol. Le groom et Judith vont vers la banque pour voir le concierge. Un homme grand, fort, chauve, habillé comme le groom. Judith dit, « Je suis Judith Lair. J'ai réservé une chambre pour une semaine. » L'homme regarde sur son écran. Et lui dit, « Oui, madame, chambre 424, troisième étage. » Il lui tend une clé. « Merci, monsieur. » Qui va l'amener vers l'ascenseur. Ils entrent dans l'ascenseur et au troisième étage, ils sortent de l'ascenseur. Ils suivent un couloir plein de portes. Le groom ouvre une porte. Entrez, madame. Elle entre. Petit couloir, grande pièce, meublée en chambre, lit à deux places, armoire, table de nuit, table ronde, chaise de fauteuil, commode, télévision, meubles de bois, clair. De forme moderne. Moquette sur le sol, bois sur les murs et le plafond. Il y a une grande baie vitrée qui donne sur la terrasse avec des meubles de jardin. Les doubles rideaux et le dessus de lit sont en laine de même couleur gris-marron que les deux fauteuils. Une porte donne à une immense salle de bain. Le groom dépose les valises à terre, s'incline et sort. On frappe à la porte. Entrez. Entre la bonne. Bonjour madame. C'est une petite jeune femme blonde. Elle va mettre le linge dans la salle de bain et le savon. Puis elle demande, « Madame a besoin de rien ?»« Non, merci. Je range moi-même mes valises. Je défraie moi-même mes valises. » Et la bonne sort. Une fois que la bonne l'a quittée, elle commence à ranger ses affaires. Elle est épuisée. Elle se dit qu'après avoir rangé ses affaires, elle prendra un bain et se couchera un moment.
elle s'est endormie sur le lit en robe de chambre beige. Son sommeil a été sans rêve. Elle se réveille, il fait nuit, éclaire la lampe de chevet et regarde l'heure. Il est 21h. Elle décide d'aller manger. Lève en vitesse, s'habille, range un peu ses cheveux, se met du rouge à lèvres et s'est habillée avec un tailleur en laine beige très épais, confortable, avec une bordure légère marron foncé, pris des chaussures plates marron foncé, un sac et sort de la chambre. Va prendre l'ascenseur. Une fois dans le hall, elle va demander à un groom, un jeune garçon dans les 16 ans, « Où est la salle à manger, s'il vous plaît ?» Il lui dit, « Elle est là, à droite. Je vais vous montrer, madame. » Il l'amène à droite en sortant de l'ascenseur. Il y a une porte à double battant qui donne à une vaste pièce. Il la fait rentrer. La pièce est divisée en plusieurs petits coins. C'est la salle à manger. Toute une face, baie vitrée, qui donne sur une terrasse qui est de plein pied sur les pistes. Le sol, les murs, sont recouvertes de pierres de forme brute, grise et vernie. Les tables et les chaises sont modernes, bois clair. Les tables sont recouvertes de nappes blanches. Il y a une petite lampe de chevet sur chaque table avec un chapeau en toile de jute brute. Il y a quelques personnes dans la salle à manger. Des serveurs vont et viennent, habillés en veste blanche et pantalon noir. Un maître d'hôtel en veste noire s'approche d'elle. Il est grand, fort, châtain. Madame, elle lui dit, j'aimerais une table, s'il vous plaît. Je suis seule. Dame, veuillez me suivre. Elle le suit. Il l'amène dans un coin près de la baie. La fait asseoir sur une table, à une table où il n'y a qu'un couvert. Lui tend la carte. Merci. Elle la lit et dit. Un petit potage de poireaux. Une tarte. Et un pamplemousse. Bien, madame. Il fait signe au sommelier et il se retire. Le sommelier lui donne la carte des vins. Elle la regarde et lui dit « Un petit Bourgogne, Lif, 74. »« Bien, madame. » Et il se retire. Elle regarde dehors. Le ciel est étoilé. La piste est illuminée. La neige est d'un blanc bleuté qui pétille de mille étoiles. C'est très beau. On vient lui apporter son potage. En mangeant, elle se sent mieux. Le voyage a été épuisant, beaucoup trop long. Lorsqu'elle a fini de manger, la salle est presque vide. On commence à éteindre les lumières. Elle se lève, elle sort de la salle pour aller dans sa chambre. Elle est sortie de la salle à manger
et va vers l'ascenseur. Dans sa chambre, elle se déshabille,
et se couche. Le lendemain, elle se réveille. À 8 heures, il fait presque jour, le ciel est bleu. Elle voit de son lit les ouvriers préparer les pistes. Elle se lève, va à la salle de bain pour prendre sa douche, puis s'habille en tenue de ski et sort pour aller à la salle à manger. Elle va à la salle à manger pour prendre son petit déjeuner. Il y a déjà du monde. Et après avoir pris son petit déjeuner, elle sort. La lumière lui fait mal aux yeux. C'est trop blanc, vif, avec ce bleu. Il a dû encore neiger cette nuit. Les arbres sont couverts d'une épaisse couche de neige et les voitures aussi. Mais la route est dégagée. Les gens vont vers les pistes en tenue multicolore et skient sur l'épaule. La fraîcheur de l'air la surprend, mais dès qu'elle se met un peu à marcher, elle se sent essoufflée. Et à chaud, c'est l'altitude. Elle met ses lunettes de soleil et marche au hasard, suit la route en regardant les chalets et leurs noms sur les boîtes aux lettres qui sont sur le rebord de la route. Elle va jusqu'à la fin de la route et s'en retourne, puis rentre dans une pharmacie. Pour s'acheter une crème pour la préserver du soleil, elle demande à la vendeuse « Vous savez où se trouve le chalet, le Bel Air ?» Elle lui répond « Oui, vous prenez à droite, puis à gauche. Vous suivez la route de gauche en montant. » « Merci. » Elle sort de la pharmacie. Thank you. Elle se dirige où on lui a dit. Voit le chalet, le bel air. C'est un grand chalet à l'ancienne de 2 étages, avec au premier un grand balcon, terrasse, qui fait tout l'étage. Il est recouvert de bois clair et les volets sont bois plein en marron foncé. Le devant du chalet se trouve côté piste. Face à la route, il y a un petit terrain et une porte avec une autre porte pour le garage. Ça semble calme, pas de bruit. Elle s'en retourne. Elle sait où il habite. Maintenant, il va falloir trouver quelque chose pour l'accoster. Elle décide, c'est d'aller faire du ski. Regarde les pistes et les remontées, les remontes pentes les plus près du chalet. Car on ne sait jamais, elle peut le rencontrer. Elle voit les remontes-pentes et il va. Passe toute la matinée à skier. Elle a pris son petit déjeuner dans un restaurant près de la piste. Devant la terrasse, mais une terrasse fermée avec un feu de bois. Puis repris les pistes. Elle a beau regarder autour d'elle, elle ne le voit pas. Il est vrai que ce n'est pas facile de reconnaître une personne en tenue de ski. Lunettes et béret, le visage glacé. À 16h, il commence à faire plus froid. Le ciel devient gris. Les skieurs commencent à déserter la piste. Elle aussi, elle est essoufflée, gelée. Elle ne l'a pas vue. Elle redonne ses skis au magasin et rentre, raidie, mal de partout. Les lèvres gelées. Elle descend la route et retourne au chalet hôtel.
Dans sa chambre. Elle se déshabille. Prend sa douche. Se met un peignoir, il prend son téléphone, allô, je suis la chambre 424, j'aimerais s'il vous plaît un thé bien chaud, merci. Puis elle va s'allonger sur le lit. Plus tard, on a frappé à la porte.
Entrez.
Est entré un jeune serveur en veste blanche et pantalon noir dans les 16 ans. Il est blond. Il apporte un plateau avec tout ce qu'il faut pour le thé. Bonjour madame.
Bonjour. Posez ça sur la table basse.
Oui madame. En le voyant, le jeune, elle se dit,
il est si charmant à cet âge-là. Ça fait bien longtemps que je ne l'ai pas dépucelé. Il a l'air gentil. Et puis, ça me changerait de ce cordex. Elle lui demande. Vous êtes du pays?
Non, madame.
Je travaille ici, mais je suis de Lyon. Seul?
Non, je suis avec ma copine. Elle lui dit.
Déjà?
Il lui dit. Comment?
Elle lui dit. Rien, je pensais à autre chose. Elle se dit, ça commence bien jeune, à peine 16 ans, et sa vie avec une copine. Je la déteste, et je l'envie celle-là. Il doit être tellement mignon. Elle doit jouer au baigneur avec lui. Elle lui demande,
vous avez besoin d'autre chose, madame?
Elle lui dit, malheureusement non, c'est trop tard, merci.
Et il sort de la chambre. Elle va préparer son thé. Ça lui fera du bien. Après avoir pris son thé, elle lit un de ses infects romans policiers. Puis, elle est allée dîner. Demain,
Il va falloir recommencer, aller sur la piste de ski. Peut-être aura-t-elle plus de chance. Lendemain matin, elle est sur la piste près du chalet de Leduc. À 13h, elle est allée déjeuner au même restaurant. Et l'après-midi, la piste. En milieu d'après-midi, enfin elle le voit en bas des pistes. Un parka rouge, pantalon marine. Et à côté de lui, un jeune garçon, un jeune adolescent dans les 14 ans. Mince, blond, visage enfant, ovale, yeux très beaux, et habillé comme le duc. Ils sont en train de se parler. Elle l'a reconnu de suite, car il a des lunettes relevées. Lui ne l'a pas vu. Il est vrai qu'il y a du monde autour d'eux. Au lieu d'aller à lui et de lui dire bonjour, elle monte un peu plus haut et fonce sur eux, comme si elle avait perdu l'équilibre. Ah ! Elle tombe sur lui. Ça lui a fait du mal. Ils sont tous les deux à terre, au milieu de leur ski. Il réussit à se relever. Vous pouvez pas faire attention, non ? Il aide à se relever. La regarde bien. Vous êtes mademoiselle Lair ? Et vous, monsieur le duc ? Alors, je suis confuse. Mais un homme m'a accroché. Il m'a fait perdre l'équilibre. Elle s'enlève la neige en se frottant et fait un peu la grimace. Il lui demande « Vous êtes fait mal ?» Elle lui dit « Non, je ne crois pas. Mais j'ai un peu mal. » Il lui dit « Attendez, je vais vous mener chez moi. Mon chalet est tout prêt. » Elle lui dit « Merci. » Le duc dit au jeune garçon « Prends les skis de mademoiselle Lair. » Le garçon s'exécute. Monsieur le duc lui dit « C'est mon fils, Serge. » Elle lui dit « Jeune homme, madame. » Monsieur le duc dit « Allons au chalet. » Et il marche. Elle marche en boitant un peu. Il faut bien faire quelque chose. Il l'amène au chalet. Passe par la terrasse qui donne directement sur la piste. Pose les skis dehors. La terrasse à des tables et des chaises de jardin. Ouvre la porte et ils entrent. Grand hall avec carreaux bordeaux au sol. Il maintient la jeune femme et lui dit « Allons au salon. »
Il ouvre une porte vitrée. Le salon est une grande pièce avec une cheminée de pierre, mur crépi de blanc, carreaux bordeaux à terre, plafond avec des poutres, baies vitrées sur la piste. Meuble espagnol, sapin. Il lui dit « Enlevez votre parka. » C'est ce qu'elle fait. Il le donne au fils. « Va le mettre à l'entrée. » Le fils le fait. s'asseoir dans un fauteuil. Vous avez encore mal ? Elle lui dit.
Non, ça va mieux. C'est des courbatures.
Vous voulez boire quelque chose ? Elle lui dit.
Oui, un petit remontant.
Le fils revient. Le père lui dit. Apporte du cognac. Cela vous va ?
Oui, merci.
Et le fils s'éloigne. Le père s'assoit dans le fauteuil en face d'elle. Il lui demande « Que faites-vous là ?» Elle lui dit
« Je passe une semaine de repos. Je suis venue ici avec une de mes amies qui avait dit que c'était magnifique. Moi, je ne connaissais pas du tout.
« Vous êtes logé où ?»
Elle lui dit « Je suis à l'hôtel. » Névé, pas bien loin d'ici. J'ai choisi sur ordinateur et trouvé par hasard cet hôtel. J'ai bien fait.
Il lui dit, mais c'est très cher. Son fils revient. Leur apporte les boissons. Il les dépose sur la table. Elle les quitte. Le père fait le service.
Tenez, merci.
Et ils boivent une gorgée en silence. Et,
cela fait longtemps que je n'avais pas passé de vacances. Or, j'ai voulu me payer un petit luxe.
Il lui dit,
oui, bien sûr. Il vaut mieux, c'est partir peu, mais avoir de belles vacances.
Elle lui demande,
le chalet est à vous ?
Oui, je l'ai acheté au début de mon mariage. Mais j'y passe qu'une semaine ou deux par an. J'ai peu de temps, et pour les grandes vacances, c'est les voyages, comme tout le monde. Et puis mon fils aime bouger, c'est de son âge.
« Oui, bien sûr. Vous restez combien de temps ?»
Il lui dit. « 2 semaines. Et vous ?»«
Moi, 1 semaine, hélas. J'en avais bien besoin. Paris est impossible avec tous ces... cette misère, ces pauvres, tout ça. »
Il lui dit. « Vous devriez habiter en dehors de Paris. »
Oui, peut-être, mais il faut trouver un coin tranquille, et ce n'est pas évident.
Elle regarde sa montre et lui dit, il faut que je dois rentrer.
Il lui demande, vous avez quelque chose ? Vous avez un rendez-vous ?
Non.
Eh bien, dînez avec nous.
Je vous raccompagnerai après. Elle lui dit,
je n'oserai jamais, et puis je suis toute bouillée de froid, et je dois prendre une douche et me changer.
Il lui dit, « Nous sommes en vacances, pas de chichi. Si vous voulez vraiment prendre une douche ou un bain, faites-le ici. »«
Mais, et pour me changer ?»«
Pas la peine. Vos vêtements sécheront pendant que vous prendrez votre douche. Ils sécheront devant le radiateur. »
Elle lui dit, « Mais,
il lui dit, « Nous sommes en vacances. » Et vous m'avez fait tomber. Alors, terminez votre verre et venez. Elle sourit, elle termine son verre et se lève.
Elle le suit.
Ils sortent du salon, suivent un petit couloir et montent les escaliers en bois jusqu'au deuxième étage. Arrivé au deuxième étage, il longe un couloir. Il ouvre une porte et lui dit « Voilà la chambre de bain. Elle est attenante à une chambre. Bon, je vous laisse. Merci. » Et c'est une immense salle de bain rouge en boiserie. Elle entre et ferme la porte. Elle va ouvrir la porte de la chambre qui est attenante. Une grande chambre, un lit, elle est meublée espagnole. Elle se déshabille. Et met le linge à sécher sur le radiateur. Puis retourne à la salle de bain. Son bain. Pendant ce temps, le fils est retourné vers son père. Dit, pourquoi tu lui as dit de rester ? Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre. La troisième époque de Violence et Crépuscule, l'élu, production, mise en scène, Junier Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Musique originale de l'élu, Lionel Morzetti.